Delta Blues, Julien Delmer, musique, misère et mystère.
Poète, slammeur et écrivain talentueux, Julien Delmer a publié Delta Blues chez Grasset cet été. Une immersion dans le Mississippi des années 30 en compagnie de bluesmen des origines, Willie Brown, Son House, Charlie Patton ou encore Howlin' Wolf, sans oublier Robert Johnson, dont la légendaire rencontre avec le diable est un mythe. Son jeu de guitare et ses chansons, Crossroads, Love in Vain ou Sweet Home Chicago par exemple, ont marqué des générations de musiciens. Mais si l'auteur donne trait et vie à ses artistes, il dresse aussi un tableau bien sombre du Deep South. La misère, le racisme, la docilité comme la révolte du peuple noir sont auscultés avec justesse. En face, l'exploitation, les richesses, la violence avec le sinistre Ku Klux Klan font le quotidien des Blancs avec quelques rares exceptions, comme ces émigrés allemands juifs tétanisés par la montée du nazisme dans leur pays où sont restés leurs enfants. On joue, danse et chante partout dans le Delta. Chant de coton, blanchisserie, boui-boui, pénitencier ou encore dans la rue, le rythme et la musique sont partout. À l'église aussi, où la confrontation des croyances et rites catholiques et vaudous se heurtent ou se mélangent selon. On suit la route de Betty, blanchisseuse au cœur et à la voix d'or, son mari le frêle Steve, sa tante l'étrange Saphira, sorcière crainte et respectée, des patrons de juke joints, des moonshiners, nous sommes en pleine prohibition, des prostituées, un pasteur contesté et en face, un shérif et son adjoint naturellement et foncièrement violent, des riches planteurs qui porteront leur sinistre accoutrement blanc, bien sûr, du clan, pour punir et martyriser des noirs récalcitrants. Sans oublier l'Egba, être surnaturel et sanguinaire. Car à ce tableau social et historique s'ajoute le vaudou, ses rites et ses divinités cruelles ou bienfaisantes, des mystères souvent sanglants. Pour qui aime la musique, Delta Blues est un roman passionnant, mais aussi il captivera tout curieux des États-Unis, de la ségrégation et du racisme. Présent lors des correspondances de Manosque pour une lecture et brillamment accompagné par le guitariste Nicolas Repac, Julien Delmer a fait une halte remarquée à la Petite Marmite, cantine participative de la cité de Giono. Il a aussi gratifié les spectateurs de quelques-uns de ses superbes poèmes. Julien Delmer, vous venez de produire Delta Blues. Vous êtes fasciné par le blues?
Ah, on peut parler de fascination, en effet, parce que c'est vrai que c'est une musique, évidemment, que j'écoute depuis une bonne trentaine d'années. Mais au-delà de la musique en soi, c'est aussi une culture qui me fascine. Moi, j'ai toujours été vraiment interrogé par le fait que cette musique qui aujourd'hui irrigue l'ensemble de la culture mondiale, est né dans un tout petit territoire, le delta du Mississippi, a été créé par des gens qui vivaient dans des conditions sociales extrêmement dures, qui étaient persécutés, qui étaient harcelés constamment, soumis au racisme, à des salaires de misère, etc. Des gens qui n'étaient pas du tout des artistes professionnels, qui se destinaient pas à la gloire ni au succès. Et qui ont créé avec les moyens du bord, parfois des instruments rafistolés, bricolés, qui ont créé peut-être une des musiques les plus expressives, les plus authentiques, une des musiques les plus peut-être universelles, alors que c'est vraiment un territoire qui par contre lui est bien balisé, qui a une histoire propre, mais ils ont atteint l'universalité à partir de leur singularité, et ça c'est vrai que les artistes de blues m'ont toujours fasciné pour ça.
Vous leur donnez matière à vos artistes de blues, justement, que ce soit Charlie Patton, Son House, Willie Brown et bien sûr, le plus grand peut-être, Robert Johnson, Bobby, dans votre livre. Comment ça s'est passé, justement, les recherches que vous avez faites pour le jeu de guitare de Robert Johnson, pour la façon de chanter ou de jouer de l'harmonica?
En fait, le travail de documentation a été... Alors, très long, mais en même temps, j'ai choisi pour ce roman, et je pense que c'était la meilleure solution, sinon j'y serais peut-être encore, d'écrire en même temps que je me documentais. C'est-à-dire, en gros, j'organisais mes journées, j'ai mis 2 ans à écrire ce roman, entre le matin, écriture pure, et l'après-midi, documentation, en sachant que c'était vraiment pour moi une immersion totale, c'est-à-dire que j'ai vraiment là, pour le coup, passé 2 ans à écouter, à réécouter du blues en permanence, et en ce qui concerne vraiment ces petits comment dire, ces éléments qui font le principe de réalité, comme vous dites, cette voix, c'est harmonica, même la marque d'une guitare, etc. Mais ça, j'ai pioché dans des livres qui sont nombreux, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de livres écrits sur le blues, sur Robert Johnson aussi, principalement. C'est pour ça que je voulais pas, d'ailleurs, que Delta Blues soit une biographie romancée de Robert Johnson. Je voulais, tout en restant fidèle à certaines anecdotes, à certaines réalités du blues, y compris ce qui pourrait paraître le plus matériel, c'est-à-dire, voilà, est-ce que Sunhouse utilisait un médiator ou est-ce qu'il attaquait les cordes à main nue, etc. Ça, je voulais que ce soit précis. Après, je voulais aussi me laisser une liberté fictionnelle, c'est-à-dire pouvoir, à un moment, créer d'autres personnages qui ne soient pas forcément des personnages historiques, et même ces personnages historiques-là m'autoriser des écarts peut-être avec l'histoire, en sachant que beaucoup de ces héros du blues ont aussi leur part d'ombre, à commencer par Robert Johnson, puisqu'il y a tout un pan de sa vie qu'on ignore. On sait qu'il était d'un endroit à l'autre, qu'il voyageait en train, mais on ne sait pas ce qui se passait entre ces étapes. Et donc, c'est aussi des vies comme ça en pointillé qui sont propices à l'intrusion de la fiction. Et donc, finalement, je ne me suis pas complexé. Je ne voulais pas un livre qui s'adresse uniquement aux spécialistes du blues, même si je voulais qu'un amateur ou un, entre guillemets, spécialiste du blues puisse s'y retrouver. Je voulais que ce soit un livre qu'on puisse ouvrir, même si on n'a qu'une très vague idée de ce qu'est le blues du Mississippi. Donc, je voulais cet équilibre-là entre fiction et précision documentaire, entre rêverie, entre comment dire, projection mentale et puis réalité historique.
Alors, il y a dans Delta Blues des musiques voisines, il y a le gospel, bien sûr, il y a aussi les hollers, les work songs, enfin, beaucoup de choses qui sont chantées, notamment par les Noirs, et c'est le deuxième élément de votre livre, c'est la situation misérable des Noirs des États-Unis dans les années 30, 1930, c'est tout juste pendant la prohibition ou après la prohibition, le peuple essaie d'avoir une conscience politique.
Alors, la situation des Noirs du Sud et particulièrement du Mississippi, elle est complexe dans les années 30 parce qu'effectivement, la crise de 29, là, moi, le roman débute en 1932. Donc, les effets déjà de la crise se font déjà sentir. Il y a aussi eu quelque chose de très important dans le Mississippi, c'est que en 1927, il y a eu une inondation absolument catastrophique, presque biblique, un déluge biblique qui a recouvert toute une partie du delta, qui a fait énormément de morts et puis qui a rendu inexploitables les champs de coton pendant des mois, voire des années. Il y a une grande saignée démographique dans les années 30, c'est-à-dire que les Noirs, qui ne supportent plus de subir le harcèlement du clan, du Ku Klux Klan, les salaires de misère, et qui se retrouvent finalement, certes, officiellement plus esclaves, mais toujours asservis, décident de rejoindre le Nord par tous les moyens, certains en charrette, d'autres en train, et donc il y a une véritable saignée démographique, au point même que les propriétaires terriens blancs menacent, voire intimident, voire violente, voire tue les gens pour les dissuader de quitter le Mississippi, c'est-à-dire que la main-d'œuvre s'enfuit. Donc c'est une période extrêmement significative de l'histoire des Noirs du Sud. Il faut savoir aussi qu'il y a quelque chose de paradoxal quand même dans le blues du Mississippi, c'est que ces gens qui ont créé vraiment, je parle pas de la création, disons les gens qui ont donné vie à cet âge d'or, je pense à des gens comme Sunhouse, Willie Brown ou des gens comme, peut-être différemment, mais pour Robert Johnson, sont des gens pour qui une carrière professionnelle n'était pas forcément un objectif. C'est des gens qui ont enregistré, c'est le début aussi des enregistrements sonores, des sillons, c'est vraiment le début de la musique enregistrée. Ils ont enregistré, mais ensuite, la plupart, je pense notamment à Sunhouse, pendant presque 30 ans, est revenu à un relatif anonymat, c'est-à-dire qu'ils jouaient de temps en temps dans des petites salles du Mississippi. C'est qu'après, dans les années 60, qu'on les a redécouverts. Donc ce qui me paraissait aussi important, c'est, je dirais pas la gratuité du geste, mais ce que ça donne à penser, c'est que en fait, ce blues était nécessaire. C'est-à-dire, au-delà des perspectives de s'enrichir, aucun bluesman de cette époque ne s'est enrichi. C'est bien plus tard qu'il y a eu commencé à avoir des stars comme B.B. King qui ont commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Mais c'était une nécessité, je pense, pour supporter tout simplement le quotidien, témoigner et apporter un réconfort à la communauté. Donc moi, je pense que vraiment, là, on a une musique, c'est un exemple rare de musique populaire qui soit vraiment dictée d'abord par une nécessité de faire peuple, de serrer les coudes et de témoigner de ce qu'est la vie quotidienne. Pas d'ailleurs en mode forcément tragique, hein. On a peut-être une image un peu trop caricaturale d'un blues mélancolique. C'est aussi le blues des corps qui exultent, de la sexualité qui s'exprime, de la joie, de la réalité quotidienne, en fait. Je joue ce que je vis et j'en témoigne auprès de ceux qui savent de quoi je parle. C'est vraiment une musique unique pour ça, peut-être.
Il y a un dernier élément aussi dans votre livre qui est important, mais on laissera le mystère planer. C'est évidemment tout le côté spirituel, que ce soit au niveau du vaudou ou de la religion chrétienne, j'entends. Vous êtes ici à Manosque, Julien Delmer, une ville que vous connaissez bien. Vous avez présenté une partie de votre spectacle avec Nicolas Repac à la Petite Marmite, et vous êtes présent aussi dans les correspondances. Comment vous êtes reçu à Manosque ?
Alors, ce qui est vraiment, j'allais dire, immédiat quand j'ai débarqué à Manosque avec Nicolas, qu'on a joué là, la Petite Marmite, qui est un lieu que je connaissais pas, mais dont je connaissais l'action parce qu'on me l'a décrit. C'est vraiment un lieu assez, assez unique, solidaire, à la fois culturel, social, avec des bénévoles hyper investis. Et immédiatement, je me suis senti, et Nicolas aussi, à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la spontanéité. On n'avait pas du tout la même pression qu'on peut avoir quand on monte dans une scène d'un théâtre officiel. C'était quasi en plein air, en fait. On a joué en plein air. Les gens passaient, certains s'arrêtaient, d'autres étaient là pour nous écouter. Mais il y avait vraiment quelque chose de spontané. Et je pense que ça, c'est rare, finalement, parce que moi, là, j'enchaîne depuis la sortie du livre, les rencontres très formelles dans les festivals, avec une heure d'interview, de rencontres avec d'autres écrivains. On nous pose des questions parfois qui nous dépassent complètement, d'ailleurs, peut-être trop, avec trop d'enjeux, alors qu'on est avant tout des créateurs. Et comme on l'a discuté tous les deux en off, effectivement, tout ce que j'ai à dire sur mon livre est dans mon livre. Donc effectivement, parfois on a l'impression soit de faire de la réclame, soit d'être un peu comme ça dans une posture. Là, il n'y avait pas de posture. J'avais vraiment l'impression de proposer à des gens bienveillants quelque chose que j'avais en moi. Et c'est dur à quantifier, à expliciter, mais quand on a cette impression-là de jouer, entre guillemets, en famille, alors qu'on ne se connaît pas forcément, c'est hyper apaisant. Moi, là, je suis arrivé, là, ça fait quand même près de 3 semaines que je fais la promotion du livre. Je dois dire que je suis assez fatigué, mais vraiment, cette lecture, elle m'a apaisé et je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que j'appréhende peut-être mes futures lectures comme ça, même si le cadre est différent, c'est avec cette même spontanéité. Non, c'était une très belle expérience.